France. Des portraits de femmes et d'hommes du peuple qui n'ont pas laissé de traces, mais aussi de celles et ceux dont la voix a été ignorée ou déformée.
Comment les individus qui ne peuvent pas s'exprimer en public parviennent-ils malgré tout à faire entendre leur voix ?
La voix des invisibles, par l'historien Gérard Noiriel, réalisation Charlotte Roux, une collection à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 19h. Le journal, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir. Le Sénat rejette l'instauration de la taxe Zucman. Ce mécanisme proposé par l'économiste Gabriel Zucman entendait faire en sorte que tous les contribuables dont les patrimoines dépassent les 100 millions d'euros payent bien au moins 2% de leur fortune en impôts. On retrouve Laurence Méride en direct du Sénat. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Sans surprise, cet impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches a été assez largement rejeté au Sénat.
Exactement, 188 sénateurs ont voté contre, les Républicains, les centristes et les indépendants, quand seuls 129 ont voté pour. L'ensemble de la gauche, bien sûr, soutenu par quelques centristes. Vous l'avez dit Aurélie, pas de surprise ici ce soir, le rejet était annoncé, adopté par l'Assemblée nationale en février. Le Sénat, à majorité à droite, était farouchement opposé à cet impôt sur le patrimoine des ultra-riches. Alors, que se passe-t-il désormais? Est-ce la fin de la taxe Zucman? La réponse est non, certainement pas, parce que les écologistes, le Parti socialiste ou encore la France insoumise veulent l'avoir adoptée et appliquée. Les partis de gauche ont donc deux solutions. Relancer l'examen du texte dans le cadre d'une de leurs niches, une journée consacrée aux textes qui leur sont chers, ou présenter un amendement lors d'un débat sur le budget. Le gouvernement, lui, travaille sur un projet beaucoup plus limité, un impôt à 0,5% au lieu de 2% pour la taxe Zucman. Insuffisant pour la gauche qui espère que le grand public s'empare de la question, que les Français fassent du bruit pour exiger que les très très riches contribuent à l'effort fiscal et à terme faire plier les parlementaires, Aurélie.
Laurence Méride au Sénat avec Olivia Branger à la technique. Une seule personne a été retrouvée en vie après la chute d'un Boeing 787 d'Air India à Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde. L'appareil qui transportait 242 personnes et qui devait rejoindre Londres s'est écrasé sur des immeubles peu après son décollage. Des enquêteurs britanniques et américains vont se rendre sur place et participer aux investigations. Aux États-Unis, le juge qui instruit le procès de l'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein déclare nulle la procédure pour viol, une mesure qui n'efface toutefois pas le verdict de culpabilité rendu hier pour agression sexuelle. Le leader indépendantiste kanak Christian Tin a été libéré par la cour d'appel de Paris. Il a passé un an en détention provisoire en Alsace dans l'enquête sur les émeutes du printemps 2024 en Nouvelle-Calédonie qui ont fait 14 morts. Dans Culture de l'Info, Adrien Taufolet reviendra ce soir sur le plan gouvernemental pour la santé mentale et la psychiatrie. Le podcast de la rédaction sera mis en ligne à 21h. 19h03, c'est la seconde partie de Questions du soir, Quentin Lafay.
Merci beaucoup Aurélie Kiefer. Et dans cette seconde partie, nous allons regarder vers le haut, vers l'élite au pouvoir.
France Culture, Questions du soir, Quentin Lafay.
Alors que le Sénat vient de rejeter très largement la taxe dite Zucman, qui vise à taxer les revenus au-dessus de 100 millions d'euros par an, tentons ce soir de comprendre qui sont ces ultra-riches qui verraient ou auraient dû voir leur taux d'imposition élevé à 2% de leur fortune. Comment faire une sociologie de ces élites économiques? Quelles sont les spécificités même de l'élite économique française? Pour en parler, un invité ce soir, Paul Lagnaud-Imonet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vous laisse terminer votre verre d'eau. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Votre livre, vous l'avez coécrit. Il est intitulé « Vers le haut, enquêter sur l'élite au pouvoir », coécrit avec François Denor et Sylvain Lorenz. Il paraîtra dans quelques jours aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Elle paye effectivement deux fois moins d'impôts à peu près que les catégories sociales moins favorisées, les classes moyennes, les classes populaires. Pourquoi? En un mot, parce qu'elle paye, ces ultra-riches, ils payent très peu d'impôts sur le revenu. Normalement, l'impôt sur le revenu, c'est la pierre angulaire de la progressivité fiscale. Mais quand vous êtes extrêmement riche, quand vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est assez facile de structurer sa fortune de façon à ce que cette fortune génère peu ou pas de revenus taxables. C'est comme ça qu'on a un certain nombre de milliardaires qui touchent des milliards de dividendes, mais ces dividendes, ils atterrissent dans des sociétés holding où ils ne sont tout simplement pas fiscalisés. Ensuite, ils sont épargnés, réinvestis, ils peuvent faire de la philanthropie, ils peuvent acheter des médias, etc. Mais tout ça sans avoir à payer d'impôts.
L'économiste Gabriel Zucman, qui était l'invité de France Inter du débat du 7-10, Paul Lagnoux-Imonet, je l'ai dit, vous êtes sociologue, vous n'êtes pas économiste. Qu'est-ce que le sociologue peut nous dire sur ces ultra-riches, sur ces Français qui gagnent plus de 100 millions d'euros par an et qui auraient dû être visés par cette taxe dite Zucman?
D'abord, ce qu'on peut constater, c'est qu'une majorité de sénatrices et de sénateurs ont exprimé leur préférence pour une fiscalité injuste plutôt que le respect du principe d'égalité devant l'impôt et un surcroît de recettes d'au moins 15 milliards d'euros par an. C'est la première chose. Et puis, peut-être que pour avoir quelques ordres de grandeur, on peut se dire que si on compare le montant moyen des 100 premières fortunes professionnelles en France aujourd'hui à celui des 100 premières fortunes en 1996, la première année du classement publié par le magazine Challenge, on constate que ce montant moyen en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, il a été multiplié par 10. Pour avoir quand même des ordres de grandeur, il faut se dire que sur la même période, le salaire net moyen des gens qui bossaient dans le privé, il a augmenté de 13%. Donc d'un côté, x 10, de l'autre, 13%. Donc ça, c'est quand même une situation, un état de fait qui, visiblement, n'a pas semblé poser de problème ni au gouvernement, ni à une majorité de sénateurs ce jeudi.
Ça, c'est pour la majorité du Sénat, mais vous, justement, en tant que sociologue, si vous nous éclairez sur qui se cache derrière ces personnes qui gagnent des montants tels que ceux-ci, 100 millions d'euros par an, comment est-ce qu'on gagne 100 millions d'euros par an? C'est d'abord et avant tout des revenus du capital, c'est, j'allais dire, un lien direct avec l'outil, avec le moyen de production?
Oui, très clairement. Il faut avoir en tête que à ces niveaux de fortune, l'immense majorité de la quantité d'argent dont on parle, c'est des actifs financiers. C'est des parts dans des entreprises qui peuvent être des entreprises cotées ou des entreprises qui sont pas cotées en bourse. C'est pas beaucoup d'individus quand même. Les estimations qui circulaient lors des débats à l'Assemblée puis au Sénat évoquaient 1800 foyers fiscaux. On peut se donner une idée assez simplement, effectivement, par exemple, en consultant ce type de classement que régulièrement, tous les ans, en France, Challenge, à l'international, Forbes publie. Et il s'agit effectivement de familles qui contrôlent un outil de production et, ce faisant, contrôle de très grandes entreprises qui opèrent dans différents secteurs. On peut penser à la grande distribution, le luxe, la téléphonie. Et une partie de cet argent, ensuite, peut être réinvesti, y compris dans des activités qui consistent à contrôler des médias, par exemple.
Voilà. Un autre sujet sur lequel le sociologue peut nous éclairer en particulier, c'est sur les exilés fiscaux. Il y a un argument qu'on entend énormément, c'est celui qui dit, en gros, si l'on taxe trop, un petit peu trop ces ultra-riches, ils iront s'exiler à l'étranger, dans des lieux, dans des zones, dans des pays où, dans le fond, on les taxera moins. Est-ce que le sociologue, là aussi, a des choses à dire sur le sujet?
Très clairement, parmi les contre-arguments à cette proposition de loi, il y avait, on nous a ressorti, on peut dire en gros, les trois figures de la rhétorique réactionnaire telle que l'économiste Albert Eichmann les avait présentées. Il y a l'inanité, l'idée selon laquelle en fait ça va rien rapporter de plus, ça sert à rien de faire quelque chose, ça va rien rapporter de plus. Il y a l'idée de la mise en péril, qui est un argument qui est revenu très souvent, c'est l'idée selon laquelle mettre en place une taxe du type taxe Zucman, ça remettrait en question toute une politique d'attractivité. Et puis il y a cette idée de l'effet pervers. L'idée que, finalement, ça va dissuader l'entrepreneuriat et des fortunes professionnelles vont quitter le pays pour des juridictions fiscalement plus accueillantes. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, la situation est la suivante. C'est-à-dire que si on s'en tient à ce qu'on peut lire dans les journaux, ce qu'on peut entendre à la radio, voire à la télé, il y a assez régulièrement des figures majeures dans différents pays qui disent quitter leur pays parce qu'elles ne veulent plus payer trop d'impôts. Et puis d'autre part, il y a des travaux, notamment quantitatifs, qui montrent que en termes de flux, dans les pays où on dispose des informations, ces flux d'exilés fiscaux sont pas conséquents. Et donc, il y a des collègues, je pense notamment à une équipe à Londres, qui ont pris la peine d'aller interroger des ménages multimillionnaires pour discuter, essayer de comprendre un petit peu à quelles conditions les gens seraient prêts à partir ou pas. Et alors, le résultat qui est quand même vraiment très intéressant, c'est qu'en gros, ces ménages très privilégiés, ils n'étaient pas prêts à quitter Londres. C'était un cas anglais.
C'est une comparaison entre Londres et la Suisse. Hein,
voilà, exactement. Ils n'étaient pas souvent prêts à quitter Londres. Sa place financière internationale, sa vibrante vie culturelle, ses sublimes quartiers d'exception, ses écoles très chères, mais de renommée, de grande renommée, juste pour aller payer moins d'impôts ailleurs. Et au terme de cette enquête, ce qu'on pouvait redécouvrir, c'était quelque chose qu'on voit souvent en sociologie, c'est que des grandes capitales comme Londres, par exemple, restent pour ces ménages fortunés ce qu'on pourrait appeler la capitale de leurs capitaux, c'est-à-dire un lieu où celles et ceux qui peuvent se le permettre, et loin s'en faut, tout le monde ne peut pas se le permettre, accumulent, investissent, convertissent et parfois aussi dissipent les quatre principales formes de capital dont on dispose, qui sont l'argent, bien sûr, mais aussi la culture, les relations et le prestige.
Qui sont par ailleurs ces exilés fiscaux, même s'ils sont, j'allais dire, relativement peu nombreux, en tout cas moins nombreux que ce que l'on imagine parfois, Paul Lagnoy-Monnet. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les grands entrepreneurs, ceux qui produisent, ceux qui innovent, ou bien ce sont plutôt des profils, j'allais dire, dits rentiers, héritiers? Car cette distinction est importante aussi à faire dans l'élite économique, puisqu'elle est faite par ailleurs dans le discours qui dit « c'est dommage, on va perdre des très très riches ».
Ce que permet une sociologie qui s'intéresse aux individus qui possèdent des patrimoines considérables, c'est notamment de moins mal distinguer entre des gens qui sont en train d'accumuler des fortunes considérables et puis des gens qui, par exemple, viennent de vendre leur entreprise et qui, de ce fait, basculent pour un temps, ou peut-être pour toujours, dans un état qui est plutôt davantage celui de rentier. Et à ce moment-là, on a pu, à certains moments, observer effectivement des flux d'individus qui partaient parfois à Bruxelles, mais qui pratiquaient couramment le Thalys pour revenir entre Paris et Bruxelles. Voilà.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un documentaire bien connu diffusé en 2017 sur Arte France. Il s'intitule « Les bonnes conditions ». Il mettait en lumière des adolescents issus de bonnes familles qui racontaient leur quotidien, leur rapport aussi à leur classe sociale.
Ça m'handicape d'être attiré par la musique, ça me saoule limite, quoi, parce que je me dis « Ah, pourquoi je ferais pas prépa ou quelque chose, tu vois, qui me plaît et en même temps qu'il fasse bonne impression, quoi ?» Quand il y a des réunions de famille, c'est « Alors Marie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et alors ma mère qui fait « Ah, la musique et tout. » Et on m'explique « Oui, tu sais, c'est très dur, hein, Et celui qui parle, c'est un avocat, un médecin, bon. » Alors forcément, je suis un peu regardée comme le... Je sais pas, c'est bizarre, quoi, de haut, par ma famille. Et pas tous, mais c'est vrai que du côté de ma mère, ils sont très bourgeois. Vraiment très trop, d'ailleurs. Bon, en même temps, je suis contente d'avoir une famille bourge parce que ça m'apprend la vie. Je sais que plus tard, eh ben, je saurais bien me tenir quand j'irai chez des gens.
Évidemment, on sourit quand on entend ces adolescents. Et puis peut-être que le sociologue, c'est une question de méthodologie, doit cesser de sourire quand il tente de comprendre qui forme, qui compose véritablement l'élite économique. Est-ce qu'il faut peut-être, a priori, pour commencer un tel travail, se départir de toute démarche normative ?
Oui, ça c'est le propre de la sociologie, c'est que en général, l'objet d'études, on le construit contre des présupposés, des lieux communs, des idées préconçues qu'on a sur ces objets. C'est la raison pour laquelle, dans Vers le haut, Sylvain Laurent, François Denor et moi, on essaie de donner un peu quelques ficelles. Par exemple, on insiste beaucoup sur l'idée que... il est possible de soumettre ces groupes sociaux particulièrement privilégiés à une sociologie tout à fait classique et ordinaire. Il n'y a pas besoin de concepts spécifiques, il n'y a pas besoin... En fait, on peut, Durkheim dirait, les traiter comme des choses et appliquer à ces groupes sociaux le même type de d'enquête que celle que on réalise pour étudier d'autres individus ou groupes qui se situent dans la hiérarchie sociale.
Mais est-ce que c'est vrai ça dans les faits? Est-ce qu'on va voir de la même façon un grand président directeur général du CAC 40? Est-ce qu'on va le voir de la même façon, j'allais dire, qu'une personne de conditions plus modestes? Est-ce qu'on pose le même type de questions? Est-ce que la personne justement issue de l'élite économique ne tentera pas de détourner vos questions, de vous aborder aussi, en tout cas, de vous considérer avec plus de distance, parfois de manque de considération? Est-ce que les stratégies, j'allais dire, pour les approcher sont les mêmes?
Bon, d'abord et avant tout, il faut avoir en tête que quand on fait la sociologie, on peut faire des entretiens, on peut faire des observations, mais il y a aussi d'autres moyens qui sans doute facilitent l'enquête. L'une des caractéristiques des individus dont on parle, c'est que très souvent, c'est des gens en fait qui sont relativement visibles. Si vous travaillez sur des grands patrons, pour des raisons qui ont trait à leur fonction de direction d'entreprises qui sont connues et reconnues, eh ben, y a plein d'informations déjà disponibles, qui sont des informations publiques, immédiatement accessibles, et donc on peut tout à fait contourner, par exemple, une difficulté d'accès à des individus qui n'ont pas nécessairement des sociabilités qui seraient les mêmes que vous.
Pas besoin de leur parler, donc, vous nous dites.
Je ne vous dis pas que vous n'avez pas besoin de leur parler, mais je vous dis juste que on a déjà plein d'informations disponibles pour être capable de faire ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire accumuler des informations qui nous permettent ensuite de retracer des trajectoires sociales, de les comparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi compter sur des archives. Très souvent, les archives, elles portent sur des gens qui sont plutôt connus que les vies minuscules. Et donc, on peut aussi utiliser ça. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand bien même vous souhaiteriez faire des entretiens, des observations, on peut aussi imaginer qu'un point d'entrée, ça serait d'essayer de rencontrer et de discuter avec les gens qui travaillent au service de toutes ces professions intermédiaires qui facilitent la vie de ces gens particulièrement privilégiés. Et en général, ces individus ont comme caractéristique qu'ils ont eux-mêmes déjà un regard quasi sociologique, dans la mesure où ils sont auprès de ces individus, mais ils ne sont pas de ce monde-là, et donc ils peuvent vous aider à comprendre, moins mal comprendre, les modes de vie de ces individus.
Je vous cite, vous écrivez dans Vers le haut, enquête sur l'élite au pouvoir. Laura Nader disait aux étudiantes et aux étudiants de l'université de Californie à Berkeley en 1972, si on examine les travaux reposant sur une enquête de terrain aux États-Unis, elle constatait que nous trouvons une littérature relativement abondante sur les pauvres, les groupes ethniques, les défavorisés, mais il y a comparativement peu d'enquêtes sur les classes moyennes et vraiment très peu de travaux de première main sur les classes supérieures. Fin de citation. Pourquoi est-ce que la sociologie a mis, dans le fond, tant de temps à s'intéresser à l'élite, aux couches très, très, très privilégiées de la société?
C'est sûr que François, Sylvain et moi, on a repris cet appel de Nader comme une sorte d'invitation qu'on partage avec nos étudiantes et étudiants, puisque cet ouvrage, il est issu de plusieurs années de cours auprès d'étudiantes et étudiants en master et en doctorat, pour leur dire, vous avez tous les moyens, et on va vous aider à aller faire des enquêtes, effectivement, sur les classes privilégiées, ne vous confinez pas à des objets qui vous sembleraient plus facilement accessibles ou dont vous vous sentiriez, vous, plus proche. C'est tout à fait possible, en fait, de mener ce type d'enquête-là, et c'est pour ça qu'on a repris dans le titre l'évocation de cet appel de l'anthropologue Nader.
Alors, lumière sur vos résultats, résultats éminemment collectifs, résultats qui appartiennent à l'ensemble du champ de recherche. Comment s'est constituée l'élite économique française, celle que l'on connaît aujourd'hui? Est-ce que le principal vecteur, j'allais dire, de l'ascension sociale, celle qui permet d'arriver tout en haut de la société, c'est d'abord et avant tout l'entreprise? Est-ce que ça reste l'entreprise?
Ce qui est sûr, c'est que dans une société capitaliste, un bon moyen de devenir très riche, c'est d'hériter déjà de capitaux, dont de l'argent. Ça, c'est indubitable. Ensuite, il nous semble que, et c'est un des résultats qui est relativement intéressant, c'est de constater que pendant des décennies, notamment dans toute la, disons, tout au long du XXe siècle, on a pu opposer parmi les individus qui occupaient des positions relativement éminentes dans la société, des individus qui avaient été accédé à ces positions de pouvoir de manière directe par le biais de l'héritage ou des alliances matrimoniales, et on opposait ces gens-là, en gros la bourgeoisie d'affaires, à une bourgeoisie culturelle qui devait ils devaient leur place, et elles devaient leur place, dans une moindre mesure, à des diplômes. Ce qui est évident, et qui maintenant est bien documenté en France et dans d'autres pays où on a des collègues avec qui on collabore, c'est que aujourd'hui, les gens qui occupent des positions de pouvoir, y compris des positions de pouvoir économiques, tendent à cumuler à la fois les diplômes et la richesse. Ce qui, à mon avis, a des conséquences politiques non négligeables, notamment pour celles et ceux qui prétendent formuler des discours critiques à l'encontre de la société et du monde comme il va.
Est-ce qu'il y a lieu, je reste un instant dans le contexte français, est-ce qu'il y a lieu d'opposer une élite dite d'État, une élite publique, avec l'élite privée, une élite de l'entreprise, ou est-ce que ces deux élites s'entremêlent plus largement comme on le pense et comme on l'imagine parfois ?
Bah, sans doute que la reconfiguration de l'économie française, et notamment de ce qui, à une époque, a pu être décrit comme une forme de capitalisme d'État, a considérablement modifié les rapports qui pouvaient exister entre la haute fonction publique, d'une part, et des chefs d'entreprise, de l'autre. Et il est vrai que ces dernières années, on peut constater que les caractéristiques des individus qui occupent des positions de pouvoir dans les grandes entreprises sont de plus en plus semblables à caractéristiques sociales de certaines et certains de nos ministres, mm-hmm. ou de gens qui sont élus, notamment à l'Assemblée nationale. C'est indubitable.
Comment est-ce que vous abordez, Paul Lannoy-Monnet, la question de la transnationalisation de ces élites économiques ? Le mythe selon lequel les très très privilégiés vivraient un peu partout dans le monde, que leur année serait constituée de sauts de puce à travers les grandes mégalopoles de la planète ?
Il y a des travaux, je pense par exemple aux travaux de Kirsten Surak sur les gens qui acquièrent la citoyenneté d'un pays en achetant cette citoyenneté. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, ces gens-là font ça pour pouvoir disposer d'un passeport qui leur permette de facilement voyager dans des régions du monde, notamment l'Europe, où leurs personnes, leurs biens sont moins en danger que ailleurs. Après, il y a des travaux, à la fois, par exemple, je pense aux travaux de collègues allemands, Hartmann, qui avait comparé la nationalité de patrons de très grandes entreprises dans différents pays. Et ce qu'on constatait à cette époque-là, c'était que, en fait, c'était assez rare des patrons étrangers d'entreprises. D'un autre pays, c'est assez rare. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet auquel on participe qui s'appelle World Elite Database, on peut confirmer ce résultat qui avait été établi au début des années 2000 par Hartmann. À quelques exceptions près, par exemple en Angleterre, où on voit un peu plus de grands patrons de très grandes entreprises qui ne sont pas nécessairement anglais, ça reste quand même des gens du cru qui dirigent les grandes entreprises du cru. Cela dit, on peut imaginer que, et c'est certain, qu'il existe des formes de sociabilité qui consistent, quand on est plus jeune, quand on est à l'école et que ses parents ont les moyens de cela, d'aller faire une partie de ses études à l'étranger, de commencer sa carrière dans des grandes entreprises à l'étranger. C'est des choses qui sont de plus en plus intégrées dans le cursus, dans les cursus universitaires ou les grandes écoles de commerce.
Que la mobilité soit plus forte, c'est une certitude. En revanche, que ce mythe, justement, de la classe privilégiée, déracinée, soit véhiculé, ça, c'est quelque chose qu'il faut relativiser ?
Je pense que à la fin de l'histoire, que ça soit les personnes physiques, mais aussi les personnes morales, elles sont inscrites dans des juridictions, et que c'est d'ailleurs tout l'enjeu des luttes telles que celles que mène l'équipe de Gabriel Zucman en matière d'évasion fiscale, de rappeler que en fait, non, ces gens-là, ils vivent pas en apesanteur sociale, et on peut se donner les moyens. d'aller repérer là où leurs capitaux sont mis à l'abri de juridictions moins favorables à ces individus dont la vie est très privilégiée.
Est-ce que mettre la lumière scientifique sur l'élite économique en particulier, est-ce que c'est une façon aussi de lutter contre le complotisme, contre ces idées qui laissent entendre, laissent imaginer parfois que le monde est dirigé justement par les très puissants qui s'entendent pour défendre leurs intérêts uniquement d'une façon consciente et rationnelle en esclavagisant des masses. Bref, le récit est infini. Qu'est-ce que la sociologie justement des élites nous permet d'apprendre et de dire de ce point de vue-là?
C'est une très bonne question. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de transformer ces notes de cours en un livre, François, Sylvain et moi. Il nous semble que la sociologie telle qu'on la pratique, c'est-à-dire une sociologie très classique, un peu à l'ancienne, elle permet effectivement d'aller à l'encontre de ces discours complotistes, en fait, qui sont mécanistes, qui imaginent une sorte de machine infernale. Donc nous, ce qu'on répond à ça, c'est on répond en deux temps. Et donc, je vais vous infliger cette réponse en deux temps, mais qui sera brève.
Je vous en prie, prenez le temps.
En gros, d'abord, ce qu'il faut admettre, c'est que les intrigues et les ententes, ça existe. D'accord. Je prendrai un exemple. Je sais pas. Vous consultez le site de l'autorité de la concurrence pour y piocher. On peut y trouver des exemples et vous trouvez que je sais pas. Il y a une récente décision à l'encontre de fabricants et de distributeurs d'électroménagers. La sanction s'élève à plus de 600 millions d'euros et elle concerne des marques qu'on connaît bien, genre Seb, Boulanger, Fnac Darty, que contrôlent de riches familles, les Lescure, les Mulliez, Daniel Kretinsky.
Ils se sont entendus sur les prix, par exemple.
C'est une entente sur les prix. Ça existe et on peut tout à fait l'objectiver. C'est pas notamment en étant attentif et attentif aux décisions de justice. Mais la sociologie, elle permet aussi d'envisager des formes d'entente qui s'expliquent davantage par des formes communes de socialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en famille, à l'école, dans des organisations, notamment des grandes entreprises, on peut acquérir des manières de voir le monde, des façons communes de se comporter. Des agents qui partagent les mêmes catégories de perception, qui ont des expériences communes, ils ont plutôt tendance à se comporter de la même manière face à un même problème. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'envisager un épouvantable complot pour constater que des individus qui ont été formés de manière relativement semblable tendent à se comporter de la même manière.
Mais là, je le dis en souriant, mais on va encore dire que la sociologie est en train d'excuser les acteurs, que des personnes qui, de toute façon, même l'élite, lorsqu'elle défend ses intérêts, on va le justifier en disant que, de toute façon, c'est par plutôt accointance interpersonnelle, bien plus que par, ce que véhicule le discours complotiste.
Pardon, excusez-moi. Non, mais il ne s'agit pas de justifier quoi que ce soit. Il s'agit juste de constater que il y a des situations où, face à un problème commun, des individus, parce qu'ils ont été formés de la même manière, tendent par exemple à exclure certaines solutions. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez une crise financière, vous avez des banques qui sont dans une situation quasi faillite. Sans doute que des gens qui ont été formés dans une école de commerce ont plus de mal à envisager qu'on puisse par exemple nationaliser ces organisations pour faire face à un risque considérable. Mais si, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par ailleurs parfois, effectivement, des ententes explicites, qui parfois même sont sanctionnées par la justice, mais c'est que très souvent, l'ordre des choses se reproduit aussi parce que ce qu'on partage, c'est des manières de percevoir le monde, de se comporter, qui facilitent l'entente sans qu'elle soit même explicite.
Je reviens sur le titre de votre ouvrage « Vers le haut » et le sous-titre « Enquêter sur l'élite au pouvoir ». Cette élite au pouvoir, elle est d'abord économique. Est-ce que je mets de côté l'élite politique, mais est-ce que l'élite culturelle appartient encore véritablement aujourd'hui à l'élite, notamment lorsque l'on sait grâce à vous que le diplôme est maintenant communément partagé par l'élite économique et cette économie culturelle?
Dans une société qui est capitaliste, l'idée que les principaux domaines d'activité qui importent, c'est l'économie, la politique et l'administration, et que les autres ont un moindre poids, en tout cas en temps de paix, c'est pas une remarque incroyable. En revanche, ce qui vaut la peine d'être étudié, c'est de constater que selon les pays, selon les formes que peut prendre le capitalisme dans tel ou tel pays, la manière dont s'organisent les relations entre le pouvoir politique, l'administration et les milieux d'affaires varie considérablement.
Merci beaucoup de ces explications, de cette lumière portée justement sur les élites. Paul Lagneau-Imonet, je redonne le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit avec François Denord et Sylvain Laurent, « Vers le haut, enquêter sur l'élite au pouvoir », c'est aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.
Vous écoutez France Culture.
Découvrez 12 créations sonores originales.
Je t'aime.
12 variations de moins de 10 minutes sur le dialogue amoureux, conçu et mixé en son spatialisé par des étudiants en école de son. À écouter au casque pour tendre l'oreille aux créateurs de demain. 11 immersives, 12 variations sur le dialogue amoureux. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et un grand merci à toute l'équipe de Questions du Soir. Stéphanie Villeneuve, Pascaline Bonnet, Bertie Bourdon, Fanny Richer, Juliette Moëlic, Roxane Poulain, Rodi Eken. À la réalisation, c'est François Richer. Aux manettes ce soir, c'était Mineta Diawara. Et vous avez rendez-vous tout de suite dans À Voix Nue, alors que s'ouvre la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Lumière sur un homme considéré comme le plus grand biologiste marin au monde. Il s'appelle Daniel Poli. Il est un nouvellement interrogé par Caroline Brouet.
Daniel Poli, bonjour.
Bonjour.
Pour ce quatrième temps de nos entretiens à voix nue, je voudrais vous proposer aujourd'hui de parler des rapports entre science et politique, le savant et le politique, et la façon dont la science, la recherche, peut et ou doit faire bouger les gouvernements. J'en profite pour dire que nous enregistrons ces émissions fin mai 2025 dans les locaux de l'association Bloom, qui est une association de protection des océans, avec laquelle, précisément, vous travaillez, vous collaborez.
Oui.
Depuis combien de temps ?
Une vingtaine d'années, parce que j'ai fait la connaissance de Claire, qui a fondé Bloom, avant qu'elle fonde Bloom. Elle a rendu visite à un ami, Philippe Curie, et ça l'a inspiré, je crois. En fait, moi, je me suis posé la question de la politique quand je suis arrivé au Canada. Parce que j'avais travaillé donc dans les pays du Sud et m'étais comporté comme il se doit. C'est-à-dire, on était censé faire la science et des managers, des gestionnaires de la pêche étaient censés utiliser ça pour gérer la pêche.
Et prendre des décisions.
Donc, c'est ce que j'avais appris à l'école. Et j'avais bien sûr remarqué que en aucun cas, il y avait une relation entre les décisions qui étaient prises. Par exemple, un ministère de la pêche qui achetait une centaine de bateaux à la Norvège et l'état des stocks. Donc, les scientifiques n'avaient aucune relation avec la ressource. De toute façon, ils travaillaient pas forcément bien. Et les politiques étaient complètement séparées de la science. Et donc, je suis arrivé au Canada où je m'attendais à ce que les choses soient différentes. Mais bien sûr, le Canada venait de détruire une ressource incroyable, donc la morue. Et j'ai remarqué que, en fait, il y a aussi, la science, bien sûr, était bien faite, mais la politique, prenait des décisions complètement indépendamment de cette science. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, parce qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Et donc, j'ai pu voir que, en fait, la société civile et les ONG environnementales sont un levier que les scientifiques peuvent utiliser. Et donc, j'ai contacté plusieurs ONG et je leur ai proposé de les aider. Et ça a été bizarre parce que les premières semaines ou les premiers mois, ils arrivaient seulement, les collègues, à avoir des choses à court terme, c'est-à-dire signer une déclaration contre telle et telle chose et tout. Et je me suis bien rendu compte qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des scientifiques sérieux. Ils ont bien sûr des gens qui ont fait des études scientifiques, mais ils l'utilisent dans un contexte activiste. Ils n'arrivent pas, à l'époque, ils ne savaient pas comment utiliser un scientifique qui fait sa carrière dans la science et qui produit des papiers, des études qui sont utilisables. Alors, j'ai dû créer ça, c'est-à-dire anticiper ce dont ils auraient besoin. Parce que, bien sûr, les ONG n'ont pas gérer une pêcherie d'une année à l'autre. C'est plutôt la vision stratégique qu'ils doivent avoir. Par exemple, la relation entre la pêche artisanale et la pêche industrielle, la protection de l'environnement, c'est des trucs à long terme, c'est pas des décisions à court terme. Et donc, j'ai travaillé, par exemple, sur la pêche européenne, et j'ai pu montrer à WWF, le WWF, donc World Wildlife Fund, que il était absolument nécessaire de revoir la politique commune des pêches de l'Europe. Et ça a bien marché. Et donc, j'ai continué sur ma lancée. J'ai offert à différents groupes de faire des études scientifiques qui leur donnent une perspective large pour leur action. Et finalement, j'ai attiré l'attention de grands groupes philanthropiques, le Pew Charitable Trust. Et alors là, ils m'ont donné des sommes importantes pour créer un contexte dans lequel on peut puiser des inspirations de conservationnistes. Donc, les travaux que je fais, ils sont utiles long terme, mais pas le court terme. Le court terme des ONG qui travaillent sur l'océan, c'est combattre telle et telle décision à court terme. Mais à long terme, ils ont besoin d'informations sur les aires marines protégées, sur l'effet des aires marines protégées, sur les prises réelles qui sont faites et non pas les prises rapportées par les États et autre chose. Donc, je vois la recherche que je fais, c'est pour les ONG, surtout pour les ONG et pour les pays du Sud, mais c'est pas pour le court terme, c'est pour le long terme. Et donc, j'ai créé le Sea Around Us comme instrument pour avoir une vue d'ensemble des pêcheries mondiales et des pêcheries de chaque pays pour pouvoir intervenir. Mais je dis pas il faut intervenir comme ci ou comme ça. C'est quand on voit le contexte de la pêche d'un pays, on peut en déduire selon qu'on travaille, disons, sur les femmes dans la pêche ou les pêcheries artisanales vis-à-vis des pêcheries industrielles, ils peuvent utiliser nos données. Et ils le font d'ailleurs. Donc, voilà comment j'ai assimilé la relation, parce que je perçois les ONG comme le seul moyen que les scientifiques ont pour amplifier leur effort, pour les rendre visibles aux politiciens. En aucun cas, ils lisent pas de papiers scientifiques. Donc il faut qu'ils soient perçus, et ils sont perçus par l'intermédiaire de la politique des ONG et aussi par les journalistes. Donc chaque papier que je fais, je regarde s'il est potentiellement consommable par un public. Et s'il est consommable, parce qu'il y en a d'autres papiers qui sont purement techniques, que c'est pour des collègues, des autres scientifiques, les papiers qui sont consommables, qui sont accessibles au public. J'ai une journaliste qui travaille dans mon projet et qui fait une conférence, press release.
Un communiqué de presse.
Voilà. Alors, elle fait des communiqués de presse que je corrige, qui en général sont très, très bien parce que elle est pas spécialiste du tout. C'est les journalistes. Alors, je lui donne un papier, disons, compliqué, abstru, et puis ce qu'elle comprend, elle le met dans le communiqué de presse. Ensuite, elle le corrige, elle l'envoie à des collègues, et les choses qu'on écrit, en général, sont reprises par des tas de magazines, de journaux, aux États-Unis, au Canada, et même en France. Donc, j'utilise les ONG et les journalistes comme levier, parce que, en tant que scientifique, je sais que les papiers que j'écris sont jamais lus par les politiciens.
Pour dire, au fond, Daniel Poli, que ce que vous avez d'ailleurs été un des premiers à dire, que l'océan n'est pas une ressource inépuisable, ce qu'on a longtemps pensé, que c'est pas une ressource naturelle inépuisable, que nous le vidons à cause de la pêche, voire de la surpêche, fait qui peut paraître assez évident aujourd'hui, même s'il faut encore le marteler, et que certains s'y opposent, mais qui a mis très longtemps à être entendu, très longtemps à être accepté. Donc on comprend bien que votre travail est d'être du côté, disons, de l'écologie. Précisément, une partie de la communauté scientifique vous le reproche. en disant c'est difficile de concilier un travail scientifique de très haut niveau comme le vôtre et des convictions environnementales. Votre travail devrait s'arrêter justement à un travail d'études scientifiques et vous, vous allez trop loin, vous avez un engagement trop marqué. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds ça que on est scientifique et on doit respecter certaines règles. Par exemple, quand on soumet un papier, il est revu par des gens anonymes, on ne sait pas qui c'est, et ça peut très bien être des gens qui, en privé, sont des lobbyistes pour la pêche. Donc, un papier scientifique, il est complètement à la merci de vos collègues. Et donc, si je peux publier dans des revues où il y a des arbitres anonymes, c'est scientifique, c'est pas arbitraire. Par contre, je suis aussi citoyen. En tant que citoyen, j'ai le droit de parler de thèmes qui sont brûlants, entre autres. Et en tant que citoyen, j'ai le droit de m'exprimer. Et bien sûr, si la pêche ou le climat sont des thèmes importants, je peux parler avec des journalistes, je peux parler avec des ONG et dire mon opinion. Et les deux choses sont terriblement séparées. Bien sûr qu'il y aura toujours le choix du sujet lui-même, c'est un choix, disons, politique, quand on fait de la science. Mais ça, c'est inévitable. On peut faire des milliers de différentes choses en tant que scientifique. On choisit certaines choses, mais justement, il faut passer par ces arbitres, par ces anonymes qui font que on ne peut pas dire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une évidence pour justifier ce qu'on dit. Donc, je suis tout à fait confortable à l'idée qu'on puisse jouer les deux rôles. Et en fait, un scientifique neutre, donc ça voudrait dire qu'il n'a pas d'opinion, et qu'il choisit ses thèmes d'après quoi ? C'est impossible à penser. Le fait est que les scientifiques qui prétendent à cette neutralité, donc qui n'existe pas, se leurrent complètement, ou ils mentent délibérément. Et tout le monde a des collègues qui vous disent que vous êtes biaisé. Ce sont des gens qui sont tellement biaisés qui vous, par exemple, ils sont financés par des boîtes privées et ils ne le disent pas. Ils ne disent pas qu'ils sont financés par des boîtes privées. Dans les remerciements de chaque papier scientifique, on est censé donner ses sources de fonds et ils mentionnent, par exemple, les fondations, ils mentionnent les fonds de l'État, mais ils ne mentionnent pas les fonds privés. Et ça c'est très grave. Par contre, moi, je dis que je suis financé par des fondations philanthropiques. C'est ça.
Vous évoquiez les lobbies de la pêche. C'est un frein pour vous, les lobbies ? Ils sont très puissants ? Ils freinent l'action publique, l'action politique ?
Évidemment, les décisions qui sont prises par l'État, en France par exemple, c'est pas des décisions qui ont été discutées au grand public et c'est pas des décisions qui sont prises dans l'intérêt des pêcheurs artisans, dans un pêcheur et du pays lui-même. C'est des décisions qui ne profitent qu'à certains armateurs, il y en a d'ailleurs très peu, et maintenant ces armateurs, ils sont surtout aux Pays-Bas. Donc la pêcherie industrielle, les pêches industrielles de France sont maintenant la propriété, pour la plupart, d'investisseurs, de cinq grandes boîtes néerlandaises qui ont acheté toutes les quotas et qui maintenant dominent complètement la pêche française et la pêche espagnole et la pêche européenne en général. Bien sûr, ce sont des gens qui peuvent téléphoner au président, qui peuvent parler directement au ministre et aucun pêcheur artisan ne peut le faire. Et donc, les décisions qui sont prises sont toujours au désavantage des pêcheurs artisans. Bien sûr, les discours, dans les discours officiels, on entend exactement le contraire, mais c'est les lobbies, ils se cachent. Par exemple, quand on parle des changements climatiques, les lobbies des industries fossiles, ils se cachent, on ne les voit pas, mais c'est eux qui empêchent la transition vers les énergies renouvelables.
Vous évoquiez, Daniel Poli, votre travail avec les ONG, votre travail avec des journalistes. Est-ce que vous considérez que toutes vos actions, en particulier, je pense, pas seulement aux articles scientifiques, mais aux articles dans la presse, qui paraissent dans la presse, aux tribunes, aux livres. Vous avez écrit de très nombreux livres. Il y a même un atlas global des pêcheries marines qui est apparu en 2016 et qui répertorie la pêche industrielle, la pêche artisanale, la pêche de subsistance, la pêche récréative de 1950 à nos jours. Donc ça veut dire que vous avez à cœur d'informer aussi le public. Est-ce que ça fait partie des moyens d'action?
Ça fait partie des moyens d'action et ça suffit pas. Il faut avoir plus de collègues qui comprennent ça. Il faut avoir plus d'ONG, plus d'efforts. Et en fait, ce qu'on a maintenant en Europe, en Amérique du Nord, c'est plutôt le contraire. Il y a la droite qui, et on a perdu, on perd une bataille après l'autre. Et ça fait peur un peu parce que on est, dans les années 80, il y avait un effort pour l'environnement beaucoup plus clair. Et il y a certaines victoires qui ont été gagnées. Il y a une certaine conscientisation de la population. En France, ça va. Mais on n'arrive pas à faire passer l'idée, par exemple, qu'on peut pas chaluter dans les aires marines protégées. Qu'il faut des aires marines protégées. Et c'est peut-être parce que on a trop insisté sur la biodiversité, non pas sur les prises des pêcheurs artisans, je sais pas. Peut-être on a fait des erreurs tactiques de mettre le poids sur la biodiversité alors qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est le public. Plutôt que les prises des petits pêcheurs, des pêcheurs artisans, on aurait pu mentionner ça. Mais de toute façon, jusqu'à présent, le progrès a été lent et parfois même
Une régression. On vous reproche aussi, en tous les cas c'est arrivé, une forme de catastrophisme, et d'ailleurs pas qu'à vous, mais souvent aux scientifiques et aux écologistes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Le catastrophisme, c'est un mot qu'on utilise, c'est presque une injure, vous êtes catastrophiste. Mais si on annonce des choses qui sont calculables, qui sont c'est assez précis, en fait. Arrhenius, un scientifique suédois, il y a 120 ans, a fait un petit modèle de réchauffement climatique sur la base de deux, trois équations très simples. Parce que, en fait, l'énergie, l'effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, tout ça, c'est bien connu depuis longtemps. Et il avait fait un modèle où il prévoyait donc un réchauffement du climat, de la Terre, et il a pensé que ça serait très grave, mais ça n'aura pas lieu parce qu'on ne brûlera jamais assez de charbon. Bien sûr, maintenant, on est en train de brûler du pétrole et d'autres carburants de la façon dont il croyait qu'elle était impossible. Et bien sûr, c'est en train de réchauffer. Et donc, les gens n'arrivent pas à se rendre compte, parce qu'il faut un peu peut-être connaître la géologie, la paléontologie et tout, que ça va mener à un changement climatique. Et qu'un changement de 2-3 degrés, ça va mener à des milliards de morts. Alors, comment? Parce que la plupart des gens mangent du riz et des autres plantes qui sont très sensibles à la température et qui ont besoin beaucoup d'eau. Le riz est à la limite de sa productivité thermique. C'est-à-dire, si on augmente la température, le riz va plus pouvoir suivre. Et on a de moins en moins d'eau disponible. Donc, si on continue comme on le fait maintenant, on arrive à une situation où il y aura des millions de morts, et des milliards, bien sûr. Et on n'arrive pas à faire passer cette idée. Parce que ça semble étrange, ça semble, mais c'est tout à fait prévisible. Et les limites des thermiques des plantes sont bien connues. Et donc, on est en train de perdre toute l'agriculture, on va perdre toute l'agriculture. Ne parlons pas des océans, des poissons. L'aliment de base de milliards de gens, c'est du riz. Et la plupart de la consommation de riz se fait à 50 km de là où il croît. Et donc, il est consommé dans les pays le produit. Et si la chaleur augmente, les récoltes de riz vont diminuer. Elles ont diminué cette année fortement au Japon. Il y a un prix énorme de riz a augmenté fortement. C'est là qu'on va. Et chaque fois qu'on parle, on essaie de dire, vous faites attention, vous arrêtez d'émettre des trucs. Alors, on va dans une énorme catastrophe. Quand on l'aura, bien sûr, et que des millions de personnes seront au bord de la famine, seront dans une famine, et ils vont essayer de faire quelque chose, bien sûr. L'Inde a des bombes atomiques, le Pakistan a des bombes atomiques. Bien sûr qu'ils vont les lancer par bêtise d'un coin à l'autre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors le problème sera les bombes atomiques. Ça sera les armes, ça sera les réfugiés, ça sera plus le fait qu'on a chauffé le monde, on a réchauffé le monde de façon à ce qu'il soit invivable. Et donc, on a une définition très simple du problème. C'est des émissions de gaz à effet de serre, mais le public n'arrive pas à comprendre. Donc, par exemple, Trump a été élu parce que, entre autres, parce que les gens trouvaient que les œufs coûtaient trop cher. Les œufs. Alors, voilà.
En même temps, vous expliquez, Daniel Poli, cette inaction, ou parfois même cette cécité, ou cette surdité, aussi bien politique d'ailleurs que du grand public, par ce que vous avez appelé le shifting baseline,
oui.
C'est-à-dire le glissement du point de référence. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Mais bien sûr. Alors, en général, une personne va percevoir le monde autour d'elle à 15, 16 ans, le monde, la biodiversité, la façon dont les choses sont arrangées. Ensuite, les choses vont changer. Elles vont changer au cours de la vie de cette personne et cette personne peut réfléchir au changement et le voir. Les choses ont changé pendant ma vie. Mais ce que cette personne ne voit pas, de la même façon, moi, c'est que ses parents ont eu aussi le même changement, les parents des parents. Et donc, on perçoit les changements que ceux qui affectent notre vie et pas les changements d'avant. Donc, une jeune personne qui grandit maintenant, elle n'aura pas comme base, par exemple, qu'il y a des insectes dans le monde. Parce qu'il n'y a pratiquement plus d'insectes. Quand on voit en voiture, quand j'étais jeune, il y avait vraiment des insectes sur le pare-brise. Maintenant, il n'y en a plus. Bon, alors un enfant, il va commencer ici, sa vie va commencer sans insectes. Et donc il ne va jamais s'engager pour qu'on remette les insectes. Pour qu'on crée une situation où il y aura de nouveau des insectes parce qu'ils ne l'ont jamais importé dans sa vie. Et ça, c'est le shifting baseline. Le point de référence, c'est toujours ce qu'on perçoit quand on est jeune, mais ça change d'une génération à l'autre.
Par exemple, on a pendant quelques années dit que le thon rouge disparaissait. Et puis, par des politiques
éclairées,
actives,
oui.
On a fait en sorte que le thon rouge revienne dans les mers.
Exactement.
Mais vous dites, en fait, il y en a quand même moins qu'avant.
Bien.
C'est ça?
Imaginez une situation, disons 120 ans. Il y a 120 ans, il y avait 100% de thon rouge. Il a diminué jusque dans les années 80 à 1 ou 2%. Ensuite, ça a remonté par des politiques éclairées à 5%, 5, 6%. Donc, il y a eu il a doublé sa population, peut-être même triplé. Alors, un jeune homme, parce que dans ce cas, ce sera un jeune homme, qui commence à pêcher, eh bien, il n'aura jamais vu autant de thon. Et en plus, il augmente. Alors, quand un vieux scientifique se ramène et lui dit « les thons sont en mauvais état, il n'y en a plus que 6%, il dira « mais j'ai jamais vu autant de thon de ma vie ». Et j'ai entendu des pêcheurs le dire à la télé. Alors, bien sûr, ils sont complètement inaccessibles à l'idée qu'il y en avait 100. Puisque toute sa vie, il a vu le thon augmenter. Et ça, c'est la dérive des points de référence parce que ça permet, c'est la raison pour laquelle l'homme, donc comme espèce, s'adapte à toutes les situations possibles. On peut vivre en Arctique, on peut vivre, bientôt on va vivre en Antarctique, bien sûr, on peut vivre dans la jungle, on peut vivre dans le désert, n'importe où, parce que on s'adapte justement par cette méthode, mais aussi on oublie tout. On oublie tout et on perd tout. Et on n'est même pas conscient du fait qu'on a perdu.
Pourtant, en tous les cas, dans votre cas, Daniel Poli, c'est pas faute d'avoir essayé, vous aussi, toute votre vie. Parce qu'en 1979 déjà, vous aviez 33 ans, vous parliez de surpêche et d'effondrement des stocks. En 95, un peu plus tard, vous avez publié un article dans Nature qui a fait beaucoup de bruit parce que vous y parliez de la pénurie des ressources marines. En 98, dans Science, vous avez écrit que les poissons devenaient de plus en plus petits et qu'il fallait faire attention à ça. Dans votre jargon, c'est les niveaux trophiques inférieurs.
Oui.
À la fin de l'article, vous disiez, on est en 98, si on continue comme ça, on pourrait se retrouver avec des dépotoirs marins dominés par du plancton. Et puis j'avance encore, en 2001, dans Nature encore, vous publiez un article qui fait grand bruit parce que vous contestez des chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, dont on a parlé dans des émissions précédentes, la FAO. On a les seules statistiques disponibles à l'échelle mondiale sont les statistiques de la FAO. Eh bien, vous, vous disiez, ben non, ça va pas parce que la Chine, premier pêcheur du monde, fausse les chiffres. Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte?
Ben, c'est ce que...
On dit de vous.
On dit de
oui,
moi.
Mais vous.
Moi, non. Parce que, en fait, quand on décrit la nature, on ne lance pas une alerte, on décrit la nature. Donc, on est un scientifique qui publie un truc, il est tout content d'avoir passé la revue de les opinions de ces éditeurs anonymes et d'avoir un papier dans Science, dans Nature. On ne lance pas une alerte, on décrit une situation. Et c'est interprété comme une alerte parce qu'il faut faire quelque chose. Et donc, non, je ne suis jamais vu comme un lanceur d'alerte. Je décris simplement la situation dont j'espère qu'elle sera réparée. Et pour ce qui est de la Chine, à l'époque, j'étais l'ennemi public numéro un en Chine, mais ça s'est amélioré. Maintenant, je travaille beaucoup avec des collègues chinois et ils ont envoyé 2-3 ans plus tard à la FAO un expert qui a réduit les captures de la Chine officielle de 3 millions de tonnes pour qu'elle devienne un peu plus raisonnable.
Donc ça veut dire quand même que vous êtes écouté par certains politiques. Est-ce que vous avez été approché, sollicité, par exemple par l'Union européenne, au Canada? Est-ce qu'il y a des endroits, des moments où
non.
Et les politiques vous ont sollicité?
Non, hein, en général, non. Ils ne m'aiment pas trop et j'essaye pas de le faire.
Vous n'aimez pas ça non plus?
J'aime pas trop ça parce que il y a tout de suite des contraintes. Je me souviens une fois la Banque asiatique du développement à Manille m'ont demandé de faire un contrat pour eux. Alors ils m'ont dit ce que j'avais à trouver.
Vous leur expliquez qu'un scientifique ne travaille pas comme ça?
Pas question. Et donc. J'ai des relations, des bonnes relations avec des personnes dans ces différentes institutions, mais pas avec l'institution elle-même, parce que j'arrive pas à concevoir. Je vois leur politique et j'aime pas trop.
Et à aucun moment, Daniel Pauly, vous ne vous êtes dit pour faire vraiment du raffut, pour que ce soit vraiment efficace, je vais me lancer en politique?
Non. Par contre, je suis membre du comité de gestion d'une grande ONG qui travaille sur les océans, la plus grande spécialisée sur les océans, qui s'appelle Oceana. Et ça fait plus d'un temps que je suis membre, et je suis un des seuls membres du comité qui n'est pas membre du comité parce que je les finance, mais parce que je donne des conseils. Non, la politique... D'ailleurs, je suis français... Mais en France, on me demande toujours d'où je viens. Et en Suisse, je suis pas suisse. J'ai vécu en Suisse, mais j'ai un accent suisse. Je l'ai peut-être perdu. Et au Canada, non. Par contre, j'ai eu peur aux dernières élections que le Trump canadien de ce bonhomme. Donc, j'ai voté d'une façon stratégique, comme tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que. Presque tout le monde, c'est pour ça que l'autre a gagné. Non, je ne vois pas la politique, non.
Merci Daniel Pauly. On se retrouve demain pour la dernière. À suivre l'épisode 5, les poissons n'ont pas encore perdu. À demain. C'était À Voix Nue avec Daniel Pauly. Réalisation Véronique Samouilov, prise de son Yvan Charby, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
bien sur France Culture.
Le chanteur et écrivain Gaël Faye partage et commente avec nous les poèmes qui accompagnent sa vie.
Le propre de la poésie, c'est d'exister à voix haute. C'est des prières, en fait.
L'instant poésie de Gaël Faye à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vendredi 13 juin à 20h, France Culture et la Comédie Française présentent Athalie, dernier opus de l'intégrale des tragédies de Racine. Lecture par la troupe de la Comédie Française en public au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Direction artistique Clément Hervieux-Léger de la Comédie Française. Musique de Jean-Baptiste Moreau, dirigée par Lucille de Trémiol, interprétée par des musiciens et des chanteuses. Réalisation Louise Loubrieux. Plus d'infos et réservations, maison de la radio et de la musique.fr et franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture.
Depuis que faire de l'histoire n'est plus ou ne